else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciades, et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons en ce vendredi 26 septembre sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Solène Colletter. Bonjour Solène.
Bonjour.
Avec qui nous allons parler de son nouveau roman, La semaine des sept douleurs, publié aux éditions Wartburg. Mais comme à l'accoutumée, et avant d'en parler avec elle, la page info. Pour vous dire que samedi 4 octobre à 21h et dimanche 5 octobre à 17h, à la gare aux artistes chemin de la gare à Montrabé, aura lieu une lecture-spectacle intitulée « Le bois lacté » de Dylan Thomas à l'occasion des 10 ans des cycles de lecture de la compagnie Autre Mot créée par Anne Cameron. Ensuite, mercredi 8 octobre à 20h30, à la Boulanguette 1 bis boulevard Eugène Montel à Tournefeuille, le Café littéraire vous propose une rencontre avec l'auteur argentin et espagnol Carlos Salem et son roman intitulé « Je reste roi d'Espagne » édité aux éditions Babel Noir. Alors, une rencontre en collaboration avec Toulouse Polar du Sud qui aura lieu dans notre ville rose le 10, 11 et 12 octobre prochain avec, entre autres réjouissances, un rallye policier inventé par Benoît Séverac, un auteur que les auditeurs de Page à Page connaissent bien et qui sera d'ailleurs mon invité le 14 novembre prochain.
Page à Page, Claire Ambille. Pou, pou, pi, tou.
Alors Solène, vous étiez venue il y a quelques années déjà à Page pour nous présenter votre roman « Je suis morte et je n'ai rien appris » qui était édité chez Albin Michel. Et puis aujourd'hui, vous revenez avec « La semaine des sept douleurs » édité cette fois chez Wartburg.
Tout à fait, oui, c'est vrai que je mets du temps
entre les deux, voilà, mais on va le voir, c'est un livre avec beaucoup beaucoup de pages et qui se lit d'une seule traite. Donc il fallait bien ces années-là pour arriver à ce roman. Alors c'est un roman à plusieurs visages, pourrais-je dire, à la fois policier, à la fois psychologique et également théologique. Alors c'est un roman de 405 pages, hein, comme je disais, c'est un gros livre, mais rassurez-vous, chers auditeurs, il se dévore littéralement, tant le suspense est garanti. Donc le nombre de pages n'influe pas du tout, c'est comme s'il était tout petit en fait. Non, enfin je veux dire, il se lit très facilement, enfin je veux dire, on ne le lâche pas.
Tout à fait, oui. Il est fait pour ça. Il a vraiment travaillé pour faire ça.
Vous avez tout à fait réussi votre pari. Si c'était un pari, il est réussi, Solène.
Il est très, très, très complet, puisqu'il va entre la psychanalyse et le thriller avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts et beaucoup de...
D'interrogations et d'analyses. Tout à fait, on va le voir. Alors, c'est un roman que vous avez voulu dédier, en quelque sorte, à Patricia Paris. Qui était psychiatre, écrivain et qui était aussi votre amie, qui nous a quittés bien trop tôt et à qui l'on pense toujours.
Tout à fait, elle nous a quittés il y a un peu plus d'un an.
Oui.
Et elle nous manque encore énormément. Et c'est vrai qu'elle a laissé son empreinte dans ce livre. Enfin, comme je l'expliquerai ultérieurement.
Pour
l'un des personnages. Mm-hmm. Et puis parce que elle a vraiment apporté son éclairage sur ce que j'avais commencé à faire. En termes de thèse théologique et en termes de thriller, elle a apporté vraiment un troisième élément.
Et puis vous avez aussi fait des remerciements à votre papa, puisque ses thèses théologiques vous ont un peu permis de bâtir ce roman.
Alors c'est plus qu'un peu permis, hein. En fait j'exploite la thèse théologique dont il est l'auteur, qu'il avait lui-même publié sous forme d'essai il y a bien longtemps, sous forme de thriller parce qu'elle s'y prêtait vraiment trop bien.
Donc voilà, des remerciements. Et puis alors, on peut noter aussi, c'est un roman à la construction originale, parce qu'il y a l'alternance donc de chapitres de l'enquête policière contemporaine, et puis avec des chapitres aussi d'une autre histoire qu'on ne dévoilera pas pour laisser le suspense. Mais donc il y a un parallèle entre les deux. Et puis il y a aussi l'alternance entre l'enquête actuelle et puis une enquête éventuelle vieille de 2000 ans.
C'est ça, vous avez beaucoup d'histoires qui s'entremêlent finalement, parce que même le thriller est lui-même... lui-même deux intrigues en parallèle.
Oui.
Et puis vous avez le passé et le présent, vous avez Toulouse et vous avez la Galilée.
La Galilée d'il y a 2000 ans,
oui. Et puis
vous
avez un peu... J'ai essayé de faire le parallèle entre ce que peut mener... ce à quoi peut mener une enfance très chaotique, une filiation mystérieuse. Les conséquences que peut avoir sur le psychisme de deux personnes très différentes, un même stimulus de départ, en fait.
Tout à fait. Donc, beaucoup de parallèles, voilà, des histoires parallèles, des alternances de chapitres, d'histoires qui s'entremêlent, qui se mélangent. Alors, le titre, La semaine des sept douleurs, cela vient des événements tragiques de ce roman qui se déroule pendant la semaine sainte et donc sur une semaine. D'où le titre qui a été choisi, j'imagine.
Tout à fait. Et puis les sept douleurs sont oui. bien comptées.
Ils sont bien comptées, voilà, tout à fait. Et puis elle aura noté aussi une jolie couverture qui représente le palmier de l'église des Jacobins de Toulouse. Et puis une couverture en papier glacé, je ne sais pas comment on dit.
Alors, ils appellent ça un vernis sélectif.
Ah, vernis sélectif. Elle est très agréable, elle est très belle.
Et pour ça, je peux vraiment remercier mon éditeur. C'est la plus belle couverture que j'ai eue jusqu'à présent.
Ouais.
Elle est magnifique.
Ah oui. C'est une belle couverture. Puis ce palmier, il est vraiment très bien mis en valeur, hein, ce trésor architectural de Toulouse. Alors, l'histoire de ce roman se déroule, comme vous le disiez, Solène, à la fois à Toulouse, mais aussi d'une certaine manière en Galilée d'il y a 2000 ans. Et puis, donc, il y a cette alternance entre présent et passé qui se répondent tout au long de ce roman. Alors, les personnages principaux, on va les citer. Il y a Florent Pagès, qui est commissaire de police à Toulouse, qui est papa d'un petit Tristan, qui est divorcé et j'aime bien qui aime la Guinness. Qui aime la bière irlandaise.
La police mène à tout.
J'ai aimé ce petit clin d'œil, voilà.
Alors, lui-même, c'est déjà un personnage qui est
sympathique.
L'aime bien. Je l'aime bien.
Ah oui, Florent, moi aussi, je l'aime bien. Florent Pagès.
il est lui-même il ressemble un peu à un vrai policier qui sévit aussi entre Toulouse, Bordeaux, enfin le sud de la France, et qui est lui-même écrivain, parce que c'est plus drôle. Voilà, donc il a beaucoup de corps, parce qu'il n'est pas issu que de mon imagination, mais aussi un petit peu de la vraie vie.
De la vraie vie. Alors ensuite, il y a Alix, la jolie psychiatre, amie d'enfance de Florent d'ailleurs, mais qu'elle a perdu de vue depuis pas mal d'années, et on saura pourquoi en lisant le livre. Et puis, elle va retrouver Florent à Toulouse lors d'un congrès médical auquel elle va participer.
Tout à fait. Et Florent va lui demander son aide parce qu'il est perdu
enquête,
et qu'il sent qu'un bon psychiatre lui fait défaut.
Voilà, pour mener son enquête. Et donc, Alix, on peut penser que c'est un petit peu Patricia, d'une certaine manière.
Il y a
un peu de Patricia dedans.
Bon, ne serait-ce que physiquement, ne serait-ce que tout.
Oui.
On la reconnaît un petit peu
tout à fait.
Partout. Il y a cette fragilité d'un côté, cette immense force de caractère
tout à fait.
Qui sont dans le roman à chaque page. Quoi.
Oui. Tout à fait. Et puis le troisième personnage principal, eh bien, c'est Renan Le Bellec. C'est l'ancien professeur de français de Florent, qui a toujours cru en lui pendant sa scolarité au collège et qui a été séminariste dans sa jeunesse. Et donc pour ce trait, il va beaucoup aider aussi Florent dans son enquête, le fait d'avoir été séminariste et donc de connaître un peu toute la théologie et l'histoire de Jésus. Et de l'histoire biblique.
Et son nom de famille est un emprunt en fait à l'un des théologiens qui ont relu cette histoire et qui s'en sont dit bouleversés.
Ah oui ?
Voilà.
D'accord, donc vous avez donné un vrai nom, enfin si on peut dire.
Voilà, enfin il y a un peu. Je mets un petit peu une touche de
réel, de réel dans la fiction.
C'était presque un hommage, hein, puisque cette personne était théologien et se posait beaucoup de questions et il s'est demandé en lisant ce livre s'il n'avait pas. pas trouver certaines réponses.
Ah oui.
Donc pour nous, c'est un peu un hommage.
Ah bah, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, et donc Florent va être amené à revoir son ancien professeur de français qu'il n'avait pas vu depuis l'époque du collège, à l'occasion du premier meurtre. Donc justement, parlons de ce premier meurtre, d'une longue série, comme vous l'avez dit Solène tout à l'heure, donc qui se passe à Toulouse, qui a été perpétré à Toulouse. C'est celui d'un prêtre dans son église. Alors un prêtre qu'on retrouve mutilé et avec un mystérieux message épinglé au niveau du cœur, qui serait ce message serait un passage de la Bible, extrait de la Bible.
Oui, donc tout
c'est
à fait. Oui,
la première.
Un certain nombre de gens du milieu ecclésiastique toulousain vont souffrir en ce début de roman. Et j'ai été obligée, non seulement de les tuer, mais de les mutiler aussi un petit peu. Mais vraiment, le but étant non pas d'ajouter de la noirceur, mais c'est totalement symbolique. C'est-à-dire, on est mutilé à des endroits qui, plus tard, vont faire écho et on va comprendre pourquoi le meurtrier avait besoin.
Tout à fait. Les mutilations étaient. Elles sont expliquées.
Tout
dans
est
la
symbolique.
Lecture.
Vous avez toujours un pan psychanalytique derrière.
Oui. Et puis d'ailleurs, ces mutilations atroces rappellent à Florent, le commissaire de police, les histoires que lui racontait son père sur la guerre d'Algérie.
Oui, parce que Florent, comme la plupart des personnages, il est un peu cabossé par la vie quand même.
Oui,
il lui arrive beaucoup de choses. Il a eu une famille. Il a eu la famille qu'on peut avoir quand on ne la choisit pas aussi.
Tout à fait.
Il s'est passé aussi beaucoup de choses. Ça remonte à loin, tout ça.
Voilà. Et alors, donc, le premier meurtre, donc, ce sont les retrouvailles de Florent et d'Alix, donc. Et puis, après de longues années où ils ne se sont pas vus. Et puis, les retrouvailles également avec, donc, Ronan Lebelec, son ancien professeur de français. Et donc, là, on va commencer à suivre les questionnements, les interrogations et les recoupements de l'enquête menée par les trois personnages, donc, d'heure en heure, de jour en jour et d'heure en heure, comme un peu un journal de bord. C'est un peu, il y a les heures, enfin il y a les jours,
heures.
Oui. Sur une journée, il y a plusieurs, ça fait un peu comme un journal de bord, j'imagine, d'un capitaine de bateau qui note des choses.
Oui, c'est un peu ça. Pour moi, c'était aussi l'assurance de ne pas perdre le lecteur, puisqu'il se passe beaucoup de choses le jour, la nuit.
La même journée, il s'en passe, et dans la nuit aussi.
Il fallait ne pas perdre tout le monde, qu'on puisse toujours se recaler de temps en temps, quoi.
Et donc pour Florent, c'est une aide précieuse que celle de son ami Alix pour le côté psychologique du meurtre, et puis l'aide aussi précieuse de Ronan, son ancien professeur de français, pour le côté justement théologique, parce que Ronan explique à Florent l'histoire de Jésus, la Bible, chose que Florent ne connaît pas de par ses parents qui n'étaient pas du tout croyants, donc il n'a pas du tout eu accès à l'histoire de Jésus. Donc Ronan lui apprend un peu les tenants et les aboutissants de l'histoire de Jésus, et avec des mots très simples, des explications très simples. Et je trouve que c'est à souligner, parce que pour nous lecteurs, c'est très accessible. Les explications de Ronan nous sont très accessibles et on comprend très bien. Sans avoir de connaissances particulières en théologie. Personnellement, j'en avais pas.
Que ce soit abordable par absolument tout le monde, tout en étant convaincant également pour des spécialistes. Donc là, je peux vous dire que j'ai transpiré un peu sur sur ce grand écart.
Parce qu'effectivement, c'est accessible à tout un chacun, sans connaissance particulière en théologie. Mmh. Et c'est pourtant, comme vous le dites, et comme ça a été reconnu donc par le théologien qui a relu le livre, ça se tient, comme on dit. Enfin, je veux dire, tout l'édifice, l'équilibre de ce livre se tient dans les analyses et dans les explications qui sont données.
Disons qu'on croit ou on ne croit pas à la thèse que j'ai développée, mais elle est factuellement inattaquable. Il y a pas
elle est possible, elle est potentielle, elle est possible, tout à fait. Alors, bien sûr, comme je disais, il y a un deuxième meurtre, alors celui d'un autre prêtre. On va pas tous les dire, mais je dis au moins les deux premiers. Alors, suivant le même procédé, mutilation atroce, et toujours un message mystérieux, un nouveau message, d'un autre passage de la Bible, et qui met le lecteur en suspens.
C'est-à-dire que rapidement, donc, le commandant Florent Pagès va se dire tout simplement, mais c'est énergumène, là. Et il se prend pour le Christ ou quoi?
Oui.
Et c'est de là que part le besoin à la fois de comprendre la psychologie du meurtrier et de comprendre pourquoi, s'il se prenait pour le Christ, il aurait agi de cette façon-là.
Oui,
et
pourquoi il se prendrait pour le Christ? Parce que c'est quand même pas donné à tout le monde de se prendre
pour le Christ. Et pourquoi, du coup, ça l'amène à tuer à droite à gauche? Du coup, le triangle commandant de police, théologien et psychanalyste ou psychiatre est nécessaire.
Tout à fait. Alors, j'ai bien aimé aussi, il y a les réunions qui sont multi-quotidiennes hein, de Florent, Alix et Ronan et pour tenter de démêler les fils conducteurs donc de l'enquête. Alors, ces réunions, elles se font dans un petit restaurant tout à fait atypique et très sympathique. Et alors, forcément, le lecteur se demande au bout d'un moment, mais est-ce qu'il existe ce lieu insolite ? À Toulouse, au bord de Garonne.
A existé, non pas à Toulouse, mais à Blagnac.
À Blagnac, d'accord.
Quelque chose qui est un pub qui ressemblait à ce lieu, oui.
Ah oui, j'ai bien aimé ce lieu. On avait vraiment envie d'y aller, se dire, tiens, on aurait bien aimé aller manger là-bas ou boire un verre là-bas. Et alors, donc, Florent s'occupe, lui, on va dire, plutôt de la partie sur le terrain, des interrogatoires, etc., qui sont forcément liés à l'enquête. Et puis, Alix et Ronan, eux, s'occupent donc de plus de la psychologie et de la théologie et l'analyse de Jésus. Donc, Ronan raconte l'histoire de Jésus à Alix, et Alix, elle analyse Jésus en tant qu'homme.
C'est ça. En fait, le Christ est humanisé.
Voilà,
et devient du coup un personnage... intéressant, oui. Attachant et un peu différent, moins superficiel finalement que ce qu'on voit dans la Bible qui peut être plaqué, quoi. Ou dans la Bible, non, ce qu'on voit dans les dogmes et dans ce qu'on a fait l'Église qui peut être plaqué. Or, derrière ce personnage célèbre,
il y a un homme de chair et de sang. Voilà. Et donc, c'est cette analyse qui est passionnante, je trouve, et captivante, celle de Jésus et de tous les personnages de la Bible hein, qui ont gravité autour de lui, qui est donc dans ce roman, qui est expliqué, travaillé...
Il y a notamment de certains passages une relecture donc totalement psychanalytique,
ah oui,
tout simplement,
oui.
Dire mais ce gars-là, il y a 2000 ans, on a pensé qu'il lui arrivait un miracle ou un mais les médecins actuels se poseraient même pas la question. Il a eu une crise d'hystérie, point final.
C'est
une névrose connue, maintenant documentée. Enfin,
dont d'ailleurs Patricia était férue de voilà,
d'hystérie. Un de ses romans était sur l'hystérie. Donc était
tout
sur
à
l'hystérie,
fait. Donc. Oui, je l'avais invité d'ailleurs à cette occasion. Et puis alors donc il y a toujours au fil de la lecture ces chapitres en alternance avec ceux d'une autre histoire, les chapitres donc de l'enquête menée par les trois personnages principaux et ceux d'une autre histoire également.
L'histoire d'un petit garçon qui est né,
qui va grandir,
qui va grandir,
qui va
persuader non seulement qu'il ne connaît pas son père, mais qu'il n'en a pas.
Voilà.
Et c'est là que j'essaie de voir l'impact, que les répercussions que ce genre de mensonge peut avoir sur
un enfant à l'âge adulte. Alors au fil de la lecture, on découvre également la vie personnelle d'Alix, ses blessures, et puis on découvre aussi les rapports, les relations difficiles avec de Florent et son ex-femme. Hein. On découvre un peu de la vie de chacun, de la vie personnelle de chacun. Il y a aussi ce côté-là dans ce roman. Et puis il y a donc toujours ce suspense hein, tout au long des pages pour le lecteur, un suspense grandissant pour nous hein, qui lisons ce livre et qui n'est pas, enfin le lecteur n'est pas au bout de ses surprises hein, parce que c'est vraiment jusqu'aux dernières pages, c'est vraiment plein de rebondissements et plein de surprises hein. C'est vraiment un livre passionnant de bout en bout hein. Et puis donc tout le caractère aussi de ces meurtres avec ces messages mystérieux, ça contribue à accroître le suspense, c'est très prenant.
Mais c'est aussi un livre d'atmosphère, effectivement.
Oui, tout
au-delà
à fait, l'atmosphère,
suspense, l'atmosphère
mystérieuse, voilà, où on peut se poser des questions en tant que lecteur. Et puis alors donc Alix cherche en fait à analyser le portrait du tueur par rapport à l'histoire donc et à la naissance de Jésus. Hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Solène. Elle cherche à caler de la psychologie sur une histoire vieille de 2000 ans qui nous a toujours été contée d'une certaine façon.
Donc j'analyse en parallèle le répercussion sur le psychisme d'un petit garçon né sans père il y a 2000 ans et qui a fait de cet enfant un prophète. Et puis il y a alors une trentaine d'années et là par contre ça s'est moins bien passé puisque la personne est devenue peu fréquentable, on va dire.
Et donc, moi, je trouve que c'est une analyse vraiment très... Cette analyse psychologique, elle est vraiment très, très intéressante et très originale, hein, parce qu'elle donne justement une autre couleur à l'histoire de Jésus telle qu'on la connaît. Ça ouvre enfin, vraiment des interrogations.
C'est totalement dépassionné, sans aucun mysticisme, sans aucun... C'est pas un polar mystique ou
ésotérique.
Ah non,
pas du tout.
Ou quoi,
pas
c'est
du
vraiment
tout.
Théologique et psychanalytique. C'est
tout à fait, oui. Ouais.
C'est vraiment... Il n'y a pas de mysticisme. Quoi.
Non.
C'est au contraire, voilà, très humain, très dépassionné, très factuel.
Oui, voilà. Puis on se dit, mais oui, pourquoi pas. Mais c'est tout à fait possible. Et donc, on voit les choses d'un autre œil. Et c'est ça qui est intéressant et captivant également. Alors, au fil des pages, eh bien, le mystère, bien sûr, s'épaissit. Le suspense est toujours omniprésent. Le lecteur, donc, suit l'enquête quotidienne en temps et en heure, comme s'il y était. Hein. C'est comme si vraiment on était avec eux en train de disserter, de chercher, d'analyser les meurtres et le meurtrier. Et puis, bien sûr, le lecteur découvre dans les dernières pages aussi toute cette autre histoire qui est tout aussi sombre, celle de cet enfant qui a grandi sans père. Et donc, c'est pour ça que ça fait un roman vraiment captivant, qui tient en haleine jusqu'au bout. Et vraiment, je précise qu'on lit d'une traite et qui est vraiment accessible, parce que moi qui n'avais aucune connaissance théologique particulière, même vraiment aucune, comme Florent sûrement dans le personnage du roman, eh bien j'ai même appris des choses, ça m'a fait un peu apprendre l'histoire de Jésus que je ne connaissais pas vraiment, et ça m'a fait aussi découvrir plein de possibilités qui sont tout à fait, comme vous l'avez dit, factuelles et qui peuvent être réelles. On ne sait pas.
On ne sait pas.
Voilà, chacun croit après ce qu'il veut. Et donc voilà, c'est un roman vraiment plein de surprises, et jusqu'aux dernières pages, hein, il y a des rebondissements. Et donc voilà, ce livre, c'est vraiment un roman que je recommande à tous, et je n'aurais qu'un conseil à vous donner, c'est de vous régaler et sans modération, hein, vraiment aucune modération, et d'aller vite l'acheter pour le lire. Donc j'imagine beaucoup de temps donc pour écrire. De recherche, de pensée, de réflexion.
La semaine des 7 douleurs, c'est 7 ans de travail.
Sept ans de travail.
Et la collaboration entre finalement pas mal de gens, quand même.
Oui.
Donc c'est pour ça que même
si c'est vous qui l'avez, voilà, qui l'avez quand même écrit.
Je suis un peu l'architecte. Je suis l'architecte, mais tout cela est né d'une rencontre, de plusieurs rencontres. Il y a des couches de travaux superposés. Enfin.
Oui, donc, théologique, psychiatrique, enfin voilà, psychologique, voilà.
Il y a eu un enrichissement progressif de l'intrigue. C'est 7 ans de travail.
Et policier aussi, enfin, ce que j'ai tout le travail policier.
Genre,
il faut aussi se pencher, voilà.
Voilà, pour moi, c'était le plus facile. Enfin, en tant qu'auteur de thriller, ça, c'était ma partie à moi, quoi.
Oui.
Après, pour le reste, voilà, on a été plusieurs à se pencher sur le sujet.
Mais en tout cas, ça fait un véritable roman, vraiment à ne pas manquer, hein, qui est vraiment à dévorer sans tarder pour les auditeurs. Et donc j'imagine que le succès de ce roman, dont je ne doute absolument pas, vous donne envie de continuer d'écrire, Solène ?
Le problème, c'est que l'écriture, c'est un peu une maladie, quoi. Une fois qu'on l'a attrapée,
oui,
on a du mal à
s'en débarrasser. Voilà, on l'a.
Bon, sachant qu'après, je mets tellement de temps à écrire, hein, parce que à chaque fois, je fais des pavés, et puis je fais toujours des romans à tiroir et à plusieurs niveaux de lecture. Donc, m'attendez pas tout de suite pour le suivant, quoi.
Non, il va falloir attendre 7 ans encore.
J'espère que non.
Il va falloir encore attendre 7 ans, vous
J'espère
pensez
un peu moins, mais peu c'est, moins. C'est sûr que je suis...
Encore quelques années.
Je ne travaille pas à l'économie, quoi.
Oui. Oui, mais enfin bon, voilà, le final, hein, le résultat est ce qu'il est. Donc, s'il vous faut du temps, prenez du temps, Solène, et puis vous reviendrez...
Je ne sais pas faire autrement.
À page
façon,
à page,
donc,
nous présenter votre prochain bébé, hein, qui sera aussi un livre noir, comme ça, enfin un thriller également.
En général, j'essaie toujours de mettre...
Un peu
une trame de thriller
policière.
Parce que moi, c'est ce que j'adore lire. Mm-hmm. Quoi, j'adore ça. Mais j'aime bien qu'il y ait toujours un deuxième, voire un troisième niveau de lecture. Donc
ça sera encore un livre à tiroir.
Voilà, tiroir.
Ben, merci beaucoup, Solène, d'être venue à Page à Page.
C'est
et puis pour ce roman dont je rappelle le titre, La semaine des sept douleurs de Solène Colletter. Et c'est aux éditions Wartberg. Merci beaucoup, Solène. Et puis, on se retrouve. Le prochain rendez-vous de Page à Page sera le vendredi 10 octobre à 15h sur Radio Occitanie. Et je recevrai non pas un ou une invitée, mais trois. Une fois n'est pas coutume. Je recevrai Emmanuel Urien et Manu Kos pour leur nouvelle écrite à quatre mains et qui s'intitule « Du temps de cerveau disponible », publié aux éditions Inuit. Et je recevrai également Chrysostome Gouriot pour sa nouvelle « Une fellation quasi nulle », publiée également aux éditions Inuit. Alors en attendant cette date, je vous souhaite de bonnes lectures et merci encore à Solène et merci à Edgar pour la technique de cette émission et à Diciats.